bienvenue dans votre émission de notre très chère web radio, RD Radio Dauphiné. Aujourd'hui, nous fêtons la fin de l'esclavage et donc nous allons parler de liberté qui, d'après le magazine Kesako numéro 56 de mars 2020, est le fait de pouvoir choisir par soi-même et aussi la liberté et le droit de faire tout ce que les lois nous permettent. Mais tiens, fun fact, les notions de liberté, d'égalité et de fraternité n'ont pas été inventées par la Révolution, mais par le rapprochement des concepts de liberté et d'égalité très présents sous les Lumières, en particulier chez Rousseau et John Locke. Mais recentrons-nous sur notre sujet. Aujourd'hui, la liberté, notre liberté, est menacée par diverses addictions. Pour nous parler du cannabis, des spécialistes sont présents sur le plateau. Il s'agit de sociologues en herbe, Anna, Julie et Stella. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons une problématique qui revient souvent. Selon vous, en quoi le cannabis nous prive-t-il de notre liberté ?
Pour commencer, qu'est-ce que le cannabis ? Le cannabis est une drogue qui contient deux types de molécules. Le THC, celui qui fait planer, et le CBD, celui qui relaxe. Elle peut être sous forme de fleurs, de feuilles, de résine ou d'huile. Mais comment elle se consomme ? Une fois que la plante est transformée, elle peut se fumer, se manger, seulement quand c'est incorporé dans d'autres aliments ou en gélules. Et alors, il y a quoi de mal ? Une consommation fréquente et prolongée de cannabis peut provoquer des problèmes de santé mentale, comme par exemple la dépression et l'anxiété. Si c'est mauvais pour la santé, pourquoi ils en vendent dans les magasins ? En fait, le cannabis vendu dans les magasins contient que du CBD. C'est donc pas dangereux d'en acheter parce que c'est le THC qui cause des problèmes. Mais cette drogue peut aussi être prescrite comme traitement médical par un médecin dans d'autres pays comme par exemple la Suisse ou les Pays-Bas. Elle est prescrite comme antidouleur, mais il faut que la consommation soit contrôlée.
Mais en fait, le cannabis, il provoque quoi ? Il provoque des changements d'humeur, changements de perception, palpitations, mais c'est pas tout. Troubles de la mémoire immédiate, troubles de la concentration et encore d'autres effets qui sont propres à chaque consommateur.
Donc pour comprendre qui est concerné et en quoi le cannabis nous prive de liberté, 173 élèves du lycée du Dauphiné ont accepté de répondre à nos questions. On sait maintenant que 13% des élèves ont déjà consommé et que la majorité ont commencé ou bien testé en seconde. Malheureusement, plusieurs personnes ont rempli la case 6e. Je dis malheureusement parce que 8% ont répondu avoir déjà eu des problèmes de mémoire ou autres comme des disputes, des accidents ou encore des mauvais résultats à l'école. Et puis, même s'ils n'ont fait que tester, ça pourrait être votre petit frère ou sœur qui sort de l'école primaire à qui on propose un joint. Moi, en primaire, je jouais encore aux billes. Hein.
Mais moi, j'ai pas l'impression que ça me prive de liberté.
Eh bien, les personnes qui fument du cannabis se sentent libres, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Le cannabis perturbe la pensée, l'humeur et la perception. Il pousse aussi le consommateur à se renfermer sur soi-même et à s'isoler. La perte du contact avec la réalité peut être tellement forte qu'elle déclenche des attaques de panique. En gros, un état d'angoisse très élevé qui est brusque mais transitoire. Les personnes qui utilisent cette drogue ont l'impression d'être libres parce que pendant qu'ils la consomment, ils sont plus détendus qu'avec l'alcool qui les rend violents par exemple. Ils peuvent se sentir libres, mais il faut se rappeler que cette plante coûte très cher. On en devient dépendant, donc plus on en consomme, plus on en veut. Plus on va devoir dépenser de l'argent qu'on n'a peut-être pas, l'addiction peut donc nous pousser à voler de l'argent, ou du moins à en trouver de quelconque façon.
Ah ouais, ça craint. Heureusement que nous, on fume pas. Hein.
C'est vrai que même s'il y a beaucoup de consommateurs aujourd'hui, tout le monde n'en fait pas partie. Du coup, on a demandé aux lycéens du sondage leur raison. Pour la grande majorité, ils n'ont simplement pas envie, mais 64% ont répondu qu'ils ont peur des conséquences, et notamment d'en devenir accro. C'est des craintes qui sont très légitimes quand on connaît les risques qui ont été cités juste avant.
Par contre, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas intérêt à en consommer. Ça peut leur provoquer des effets bien plus graves que la simple consommation. Il faut faire attention à sa génétique, ses antécédents médicaux, sa fréquence de consommation, la quantité consommée. C'est pour ça que, dans le doute, vaut mieux pas en prendre, on sait jamais.
D'accord, j'ai compris. Alors comment je peux me faire aider ? Je vais pas du tout y arriver tout seul.
Si tu veux te faire aider, un numéro téléphonique non surtaxé et un appel anonyme a été mis en place pour aider les personnes dépendantes. Ça s'appelle Écoute Cannabis au 0 980 980 940. Aussi, si vous êtes concerné, c'est important d'oser en parler et de bien se faire entourer par sa famille et ses amis.
Merci pour votre intervention, mesdemoiselles. Nous allons parler tout de suite de la poudre blanche, pas celle qui sert à faire des crêpes, mais celle connue sous le nom de cocaïne. Nous recevons dès à présent des spécialistes en herbe sur les drogues. Et nous expliquerons en quoi la consommation de la cocaïne crée une dépendance. Selon vous, Pourquoi la liberté et la drogue et la cocaïne, ça fait deux ?
C'est une drogue stimulante. Elle est extraite de feuilles de coca et elle se présente sous la forme d'une poudre cristalline blanche. Et d'abord, savez-vous comment peut être consommée la cocaïne ?
Elle peut être reniflée, injectée ou même fumée.
Connaissez-vous les effets de cette drogue ?
Les personnes ayant consommé de la cocaïne se sentent énergiques, bavardes et euphoriques. Elles sont plus conscientes de leurs sens. L'ouïe, la vue, le toucher semblent plus développés. Les drogués ressentent des pulsions sexuelles. La faim et le sommeil sont atténués. Certains vont se sentir apaisés, plus confiants et plus à l'aise en société, alors que d'autres se sentiront anxieux, nerveux et seront incapables de se détendre.
Nous pouvons d'ailleurs ajouter qu'à forte dose et sur une longue durée, la prise de cocaïne peut provoquer des crises de panique, des symptômes psychotiques comme la paranoïa, des hallucinations et des idées délirantes, un comportement excentrique, bizarre et même parfois violent. D'ailleurs, savez-vous si cette substance peut créer une dépendance, voire une addiction ?
Oui, certains peuvent devenir dépendants, mais pas tous. Ceux qui développent une dépendance à la cocaïne ne maîtrisent pas leurs usages. Ils ressentent un besoin intense de prendre de la drogue, même lorsqu'ils sont conscients que cet usage leur cause des problèmes médicaux, psychologiques et sociaux. Se procurer et prendre de la cocaïne peut devenir leur plus grande préoccupation et leur coûter très cher.
C'est exact. La cocaïne est de ce fait l'une des drogues dont il est très difficile de se sevrer. Si une personne arrête de prendre de la cocaïne, elle peut avoir l'impression de s'effondrer. Quand cela se produit, son humeur change rapidement, menant à un état de manque intense. Et pour finir, selon vous, en quoi peut-on dire que consommer de la drogue nous prive de notre liberté ?
La consommation de drogue crée une addiction et de ce fait nous prive de notre liberté, puisque la personne droguée ne va plus penser qu'à se procurer de la drogue pour pouvoir en consommer et va délaisser tout ce qu'il y a autour, que ce soit sa famille, ses activités ou encore ses besoins.
Merci de votre collaboration, mesdemoiselles. Et maintenant, nous allons parler des jeux vidéo. LOL, Fortnite, COD. Moi-même qui suis un gamer, je suis très intéressé par votre sujet. Kevin, Hamael, Robin vont nous parler de la place du jeu vidéo dans la société, expliquant comment savoir si on est accro, puis comment sortir de cette addiction ? À toi, Kevin !
Bonjour, je vais vous parler de la place des jeux vidéo dans la société. Le saviez-vous ? La croissance des jeux vidéo à l'échelle mondiale dépasse même le chiffre d'affaires des cinémas. Un truc de ouf ! Pourquoi ? La grande majorité, c'est-à-dire 89% de la génération Z, les 15 à 24 ans, joue aujourd'hui aux jeux vidéo. Une enquête sur les pratiques culturelles au temps du confinement menée par le ministère de la Culture montre que la progression du nombre de joueurs bénéficie surtout aux personnes de 15 à 24 ans, jouant près de 5 fois plus que les soixantenaires en 2018. Le rapport n'était plus que de 2,3 pendant le confinement. Les écarts se sont réduits.
Cette grande pratique des jeux vidéo peut parfois mener à un phénomène que l'on surnomme l'addiction aux jeux vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que l'addiction ? Selon l'actu du 12 octobre 2021, l'addiction est souvent une façon de gérer un grand inconfort émotionnel provoqué par une dépression, du harcèlement ou bien des abus. Ensuite, on considère que l'on est addict aux jeux vidéo lorsque ces derniers ont un impact négatif sur le reste de notre vie sans que l'on en ait conscience. On considère qu'il y a une dépendance quand cette situation est observée pendant au moins un an. Le temps de jeu par jour n'entre cela dit pas en compte. Par exemple, si l'on met une alerte à 10 heures de jeu par jour, cela veut-il dire qu'au bout de 9 heures, il ne faudrait pas s'inquiéter ? Et puis, des professionnels d'e-sport passent bien quant à eux 8 heures par jour à jouer sans pour autant être accro aux jeux vidéo.
Maintenant que vous avez parlé de comment reconnaître l'addiction aux jeux vidéo, je vais vous parler de comment en sortir. Donc, la première étape de la guérison d'une addiction est la prise de conscience, ce qui est plutôt logique. Il faut réagir au plus vite pour limiter les effets sur le long terme de cette dépendance. Pour cela, la personne a souvent besoin d'une aide extérieure, donc ça peut être les parents ou un psychologue, et il faut mettre en place des règles simples pour guérir de l'addiction, même si elles sont dures à mettre en place. Donc ça peut être laisser l'ordinateur et la console dans une pièce commune, se fixer des temps de jeu, essayer de les respecter, mais ça peut être inefficace, et dans ce cas-là, il va falloir se faire soigner. Donc ça passe par un traitement, et disons que c'est radical, puisque les soignants vont s'attaquer aux causes de l'addiction, faisant un traitement sur le plan psychologique, biologique et social, et ça peut être très long.
Merci pour votre chronique, messieurs. Maintenant, je laisse le micro à mon très cher collaborateur, Abel.
Nous allons évoquer maintenant un sujet tabou, l'esclavage sexuel. Pour en parler, nous avons Ambre et Lali.
Oui, effectivement, nous avons des informations sur ce sujet. Déjà, qu'est-ce que l'esclavage sexuel ? Alors, l'esclavage sexuel, c'est une forme d'esclavage moderne qui touche tous les pays. C'est pas juste le fait de faire les trottoirs, c'est aussi le fait d'enrôler, de transporter ou d'héberger une personne à des fins sexuelles. Celui ou celle qui va agresser la victime participe aussi à ça. Cet esclavage peut se manifester sous plusieurs formes, comme la prostitution forcée ou les mariages forcés. Du coup, Ambre va commencer par nous donner des chiffres et des informations sur l'esclavage sexuel dans le monde, puis je vous dirai ce qu'il en est de la France. Mon ami nous dira les sanctions prévues et je terminerai par vous citer quelques témoignages de victimes. Alors, l'ONU estime qu'il y a environ 1 million de personnes qui sont victimes de l'esclavage sexuel par an. Environ 70% des victimes sont de sexe féminin et 25% sont des enfants. Même si l'esclavage sexuel est présent dans tous les pays, la plupart des victimes viennent d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Dans ces régions-là, certaines familles en situation de pauvreté extrême vendent leurs enfants, notamment pour les mariages forcés. En 2018, il y a environ 1900 victimes d'esclavage moderne en France et environ 75% d'entre elles sont victimes de l'esclavage sexuel. Parmi tous les esclaves présents en France, seulement 1% sont d'origine française. Tous les autres sont majoritairement originaires de l'Afrique du Nord et de l'Europe de l'Est. La plupart de ces victimes font partie de réseaux criminels. Pour lutter contre ça, l'ONU a mis en place un protocole pour prévenir, réprimer et punir l'esclavage sexuel. Les pays signataires doivent donc mettre en place des mesures pour lutter contre ce crime. Du coup, qu'est-ce que notre pays a prévu comme sanction ? Eh bien, en France, cette pratique est punie de 20 ans d'emprisonnement.
Pour conclure, je vais vous citer quelques témoignages. Annabelle Forest raconte dans un livre le calvaire qu'elle a vécu de ses 7 ans à ses 17 ans. Violée pour la première fois à l'âge de 14 ans, ses parents la livrent à un gourou. Elle cite « J'allais à l'école le jour et j'étais une esclave sexuelle la nuit. Elle s'en sortit à 17 ans quand elle tomba enceinte. » Les esclaves sexuels ont aussi été présentes sur les champs de bataille. Les femmes sont capturées puis violées par l'armée. Ils utilisent le viol pour terroriser les populations et humilier la communauté.
Merci les filles de nous en avoir parlé. Pour terminer notre émission, parlons avec Justine Adilé des réseaux sociaux.
Tout d'abord, merci à toi Abel de nous recevoir. Nous allons parler de l'addiction aux réseaux sociaux.
Oui, bonjour Justine et Abel, merci de me recevoir aussi. Pour commencer Justine, c'est quoi les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux sont des plateformes munies de plusieurs sites internet. Elles permettent aux internautes de créer une page personnelle afin de partager et d'échanger avec leur communauté, amis, famille, toutes sortes de contenus, des informations, photos ou vidéos.
Mais tu savais qu'aujourd'hui, l'application la plus addictive est TikTok ? Car elle est mieux utilisée. À la seconde, non mais vraiment à la seconde où nous ouvrons cette application, nous sommes déjà en train de consommer ce qu'elle a choisi pour nous. Elle est instantanée et automatique.
Rentrons dans le sujet précis. L'addiction aux réseaux sociaux. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que l'addiction ? C'est tout simplement une drogue, être accro à quelque chose. Ici, ça serait d'avoir le réflexe d'aller checker les réseaux sociaux n'importe quand, n'importe où.
Et n'importe comment ?
Effectivement, Alizé, chaque réseau a développé son propre algorithme. Un ensemble de règles informatiques qui choisit quel contenu vous montrer en fonction de vos habitudes à la consommation. Cette addiction va vous donner un shot de dopamine, un plaisir. Plus la récompense est grande, plus l'addiction est forte. C'est pour ça qu'on attend like, pouce levé, cœur et commentaire. C'est aussi le fait de nous priver de liberté. On ne voit plus le temps passer quand on est sur notre smartphone à longueur de journée. Toute activité qui ne consiste pas à passer d'un pic de dopamine à un autre en l'espace de quelques secondes, offrant une gratification instantanée, va nous sembler une éternité. Nous allons alors perdre la motivation de chercher une récompense à long terme.
Mais tu savais que les utilisateurs ont leur premier réseau social entre 10 et 12 ans seulement, alors que l'âge idéal, selon moi, serait vers 16 ans. Je pense que les parents devraient faire plus attention au temps passé sur les réseaux sociaux et aux applications que possèdent leurs enfants pour éviter de tomber dans une addiction.
En plus, si l'addiction est associée à des troubles de santé mentale, à l'anxiété et à la dépression, c'est parce qu'elle ne laisse plus aucune place à notre avenir. Vous allez perdre la concentration nécessaire pour lire, travailler, passer du temps avec votre proche. Vous allez aussi perdre peu à peu la capacité à réfléchir.
Mais du coup, il faut faire attention, car on peut vite tomber dans une addiction. Quand on est dedans, c'est compliqué d'en sortir. Hein. Il faut en parler. Dès les premiers signes, la perte de notion du temps, l'isolement, le sentiment de coupure avec les vrais liens sociaux, l'impossibilité à passer une journée sans consulter les réseaux sociaux. Parlez-en avant que ça devienne trop grave.
Merci de nous avoir écoutés attentivement.
Merci les filles pour votre intervention éclairante.
Et voilà, notre émission se termine. Abel et moi, nous tenions à remercier tous les chroniqueurs et intervenants. Les sujets traités nous rappellent que le combat pour la liberté de tous et de chacun continue. Le 27 avril 1848 ne doit pas être oublié. Mais l'esclavage moderne existe toujours. À nous, vous auditeurs et nous journalistes, de continuer à le dénoncer, à en parler et à agir pour le bannir. Merci pour votre écoute. À bientôt sur RD Radio Dauphiné.